Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. C'est un traducteur que nous recevons aujourd'hui à Radiola. Bonjour Samuel Suez.
Bonjour.
Votre venue dans nos studios n'est pas liée à votre récente installation au pays de Dieulfi-Bourdeaux, ou du moins ne l'est-elle qu'en partie, mais bien plutôt à la publication toute récente d'Histoire d'un fils, livre que vous avez traduit d'après l'œuvre de l'auteur italien Fabio Guéda. Histoire d'un fils paraîtra bientôt, il était prévu ce 3 mars mais finalement c'est un peu repoussé, aux éditions Slatkin et compagnie. Il fait suite, 10 ans après, à la publication de Dans la mer, il y a des crocodiles, qui nous faisait découvrir l'histoire vraie d'Enayatollah Akbari, un jeune Afghan contraint de fuir son pays pour échapper aux persécutions infligées à sa communauté, les Hazaras. Nous le suivions alors dans son long et éprouvant parcours, partant du Pakistan jusqu'à l'Iran, en passant par la Turquie, la Grèce et enfin l'Italie, où Enayatollah Akbari vit aujourd'hui. Depuis sa première parution, Dans la mer, il y a des crocodiles, a connu un large succès. Il a été vendu à plus de 400 000 exemplaires, traduit dans plus de 30 langues, je crois. Et si l'histoire d'Enayat a pu parvenir jusqu'à nous, lecteurs français, c'est grâce à vous, Samuel Suez. Alors pour commencer, peut-être pourriez-vous revenir et nous dire comment vous avez connu l'histoire d'Enayat, retranscrite par Fabio Guéda.
Au départ, c'est l'éditrice originale, Léna Lévy, qui a publié le texte il y a 10 ans, qui m'avait proposé de traduire ce texte. J'ai immédiatement accepté, puisque c'était vraiment un texte que je trouvais très fort, qui a résonné très fort en moi. Et puis c'était une de mes premières traductions de l'italien. Et j'ai vraiment plongé dans ce texte que j'ai trouvé très fort et que j'ai beaucoup apprécié de traduire.
Et vous connaissiez l'œuvre de Fabio Guéda avant ce livre-là ?
Non, je l'ai découvert à cette occasion-là. Il avait déjà publié un texte qui avait été traduit en français, toujours chez Léna Lévy, qui s'appelle « Pendant tout le voyage, j'ai tiré sur les Indiens », qui raconte l'histoire d'un enfant roumain, qui raconte en fait le voyage d'exil d'un enfant roumain qui vient en Europe. La différence, c'est que ce premier texte, c'est un roman, donc c'est de l'invention. Alors que Dans la mer, il y a des crocodiles, c'est une histoire vraie. C'est vraiment le fruit d'une rencontre entre Fabio, qui est éducateur, et Enayat, quand il arrive en Italie.
Ils se sont rencontrés, oui, d'ailleurs, à cette occasion où Fabio présentait le livre dont vous parlez. Et Enayat venait, quant à lui, raconter son histoire. Et c'est là que la collaboration est née entre les deux. Histoire d'un fils poursuit l'histoire d'Enayatollah Akbari, là où nous l'avions quitté dans le premier livre Dans la mer il y a des crocodiles, à savoir au moment de son arrivée en Italie, où il parvient à obtenir enfin, peut-on dire, le statut de réfugié. Si le premier livre retrace le parcours d'Enayat depuis l'Afghanistan jusqu'en Italie, Histoire d'un fils se concentre quant à lui sur les retrouvailles d'Enayat avec sa famille, qui elle est restée en Afghanistan. Le titre l'indique d'ailleurs, c'est sur le point de vue de la mère que se concentre en partie l'histoire et que Enayat essaie d'embrasser en fait à travers ses propres mots qui sont retranscrits par Fabio Guéda. On peut quelque part dire que finalement l'histoire d'un fils, la traduction fait partie presque du processus même de la narration. Dans Histoire d'un fils, on peut d'ailleurs lire ces mots de Fabio Guéda lui-même qui revient sur les prémices de sa rencontre avec Enayat et de l'envie d'écrire son histoire. Alors je vais lire un petit extrait qui se situe page 62. On nous demande souvent comment ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé que dès qu'il a ouvert la bouche, dès que je l'ai entendu raconter son histoire, j'ai senti une grande adéquation entre le regard sérieux mais léger, presque ironique, qu'il posait sur ses années de voyage et ce que j'aurais aimé faire avec l'écriture. Ses aventures et celles de sa famille émergeaient de ses paroles, illuminées d'une lumière particulière qui faisait davantage ressortir l'espoir que la douleur, sans la nier, sans la cacher, mais en évitant de la titiller plus que nécessaire. Au contraire, parce qu'il ne faisait que l'effleurer, le public et moi la ressentions avec encore plus d'intensité. On a écrit le livre 1 an plus tard, mais c'est ce soir-là qu'il a commencé à naître. Alors, moi j'aurais voulu vous demander, Samuel Suez, en tant que traducteur, comment vous décririez l'écriture de Fabio Guéda ?
Ce que vous disiez était vraiment très juste. Donc le premier livre est signé de Fabio Guéda,
Jeddah, on dit.
Jeddah en italien, oui.
Merci, c'est bien de me reprendre.
Mais c'est vraiment un travail collectif avec Enna Ayatollah. Ça, ils en parlent dans les deux livres de la manière dont ils ont écrit. Et donc, à la suite du passage que vous venez de lire, d'ailleurs, Enna Ayatollah explique qu'au moment où le texte a été terminé, Fabio lui a tout refait lire et que si c'était pas fidèle à ce que lui ressentait, à la manière dont il aurait raconté les choses, il l'aurait pas publié. Donc il y a vraiment une... Moi, ce que j'ai ressenti dès la lecture du premier et dans le deuxième aussi beaucoup d'ailleurs, c'est qu'il y a un vrai respect de la parole d'Enna Ayatollah quand il raconte son histoire et on retrouve vraiment sa parole à lui. Fabio Jeddah a mis son savoir-faire d'écrivain au service de cette parole, mais il l'a pas trahi. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, nous aussi, en tant que traducteur. On a le texte original qu'on essaie de rendre dans une autre langue, donc on met notre savoir-faire linguistique au service du texte. Et l'enjeu principal, c'est de rendre le texte dans toute son identité, autant que la langue le permet.
D'ailleurs, un peu plus loin de ce passage, donc page 65 cette fois, Fabio Jeddah y rapporte ces mots. Donc je vais encore lire un tout petit extrait, plus court celui-ci, qui parle finalement de ce rapport de traducteur. « Enayat voulait mettre ses souvenirs sous vide de manière à ce qu'ils ne soient pas abîmés par le temps. Du point de vue de la rédaction, cela signifiait que je devais devenir invisible, une sorte de vitre par balle. » Donc ça, c'est Fabio Jeddah qui le dit. Cette image de la vitre par balle, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous la reprendriez aussi pour décrire votre statut de traducteur?
Bon, alors l'avantage en tant que traducteur, c'est qu'on ne reçoit pas de balles normalement. On est face à notre écran, donc on prend évidemment
des... Ce ne sont que des mots.
On prend évidemment des... Dans le cas d'Enayat, malheureusement, c'est assez réel aussi, puisqu'il y a un épisode où il se fait tirer dessus à la frontière. Mais pour revenir à la posture du traducteur, on essaye effectivement d'être transparent. Mais il faut quand même être conscient vraiment du fait qu'on n'est pas, on peut pas être neutre. Enfin, la neutralité est pas possible puisqu'on traduit avec son bagage linguistique, on traduit avec ses connaissances. Alors évidemment, un des grands intérêts de ce métier, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de recherches, on est amené à s'informer. Mais voilà, on traduit quand même toujours avec notre subjectivité. Voilà, c'est important d'en avoir conscience et bah, que le lectorat en ait conscience aussi. Mais avec cette subjectivité-là, évidemment, on essaye en tout cas de rendre justice au texte original et à la voix qu'il porte.
Donc traduire, ça nécessite, comme vous l'avez dit, de s'imprégner de la langue, de l'écriture du traducteur. Est-ce que vous lisez donc Fabio Jeddah, mais aussi les autres auteurs que vous avez pu traduire jusqu'à maintenant, où il y a aussi de l'américain, je crois, dans vos traductions. Est-ce que vous lisez à chaque fois l'entièreté de l'œuvre des auteurs que vous écrivez, ou au contraire, vous préférez avoir un rapport plus direct avec le livre qui concerne votre travail directement?
Alors, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de règle générale. C'est quelque chose qu'on dit très souvent en traduction. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Il y a des pratiques individuelles. Il y a certains traducteurs et certaines traductrices qui ne lisent pas même le texte qu'ils traduisent avant de le traduire.
Donc, c'est-à-dire qu'ils traduisent au fur et à mesure?
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Ça comporte certains risques parce que on peut avoir des retournements de situation à la fin qui peuvent nous contraindre à faire pas mal de remaniements. Donc, voilà, c'est toujours un petit risque à prendre. Personnellement, moi j'aime bien lire les textes. C'est plutôt en cours de traduction que je vais me rendre compte si j'ai besoin d'aller chercher plus loin. Je peux aller chercher chez l'auteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même d'aller chercher dans des textes écrits en français qui baignent un peu l'univers. Là par exemple, dans Histoire d'un fils, Enayat, il parle d'un livre qui l'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Exit West. Le nom de l'auteur m'échappe maintenant. Oui. Mais c'est l'histoire d'un migrant, en fait, qui se retrouve en Occident, mais sans la migration, c'est-à-dire il trouve une porte magique, il l'ouvre et paf, il se retrouve en Occident. Donc ça gomme un peu toute la migration en elle-même. Donc voilà, moi je vais aller m'imprégner un peu de ces textes-là qui gravitent autour du texte que je traduis.
Et vous disiez que vous faisiez des recherches là pour cette histoire des Ayatollah Akbari. Est-ce que vous étiez un peu au fait de la situation des immigrés ou au contraire, vous êtes venu à vous intéresser à ça en traduisant ce livre ?
Alors j'avais déjà une conscience quand même des questions de migration, ne serait-ce que parce que depuis quand même pas mal de temps maintenant, elles sont souvent à l'ordre du jour médiatique. Moi, ce que j'ai découvert, ces deux textes, en particulier dans La mer, il y a des crocodiles, m'a fait toucher du doigt l'individualité de ces parcours dont on parle voilà, en termes politiques, que ce soit pour critiquer les migrants ou pour critiquer la situation à laquelle les situations qu'ils vivent. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte-là, c'est que vraiment, là, on a une individualité, on a une personne qui nous raconte comment elle a vécu ça. Et ça, effectivement, on peut pas le voir autrement que raconté par une personne, dans ce cas, par El Nayat.
Traduire, c'est aussi prendre en compte le lecteur et la culture du pays auquel la traduction est destinée. Donc cela implique de votre part, en tant que traducteur, quelques adaptations. Et je pense par exemple à ce passage que j'aimerais que vous nous lisiez, où Enayat justement vient d'arriver en Italie. Enfin, il trouve un emploi dans un restaurant et il y a un nom de plat traditionnel qu'il n'arrive pas à lire. Alors comme c'est de l'italien, je profite que vous êtes là pour nous le lire ce passage.
J'avais été embauché dans un restaurant situé le long de la route qui monte de Turin vers la basilique de Superga. Au début, je ne faisais que remplir le lave-vaisselle, et je me rappelle que je n'arrêtais pas de casser le pied des flûtes. Peut-être pour éviter que je massacre les verres, ils avaient fini par me mettre au service en salle, et ça avait été une bonne chose, surtout pour pratiquer la langue, parce que j'avais affaire aux clients. Il y avait un plat, une spécialité de la maison, la tinca gobba del pianalto di Poirino, la tanche bossue du plateau de Poirino. Et à chaque fois que je devais le prononcer, je me trompais. Un vrai désastre. Alors, à la maison, dans la rue, je passais mon temps à le répéter. Certains jours, je m'endormais en psalmodiant. Tinca gobba del pianalto di Poirino. Tinca gobba del pianalto di Poirino. Tinca gobba del pianalto di Poirino. Genre les chaussettes de l'archiducèse, vous voyez ?
Vous avez vous-même fourché sur les fameuses chaussettes de l'archiduchesse. Justement, j'imagine qu'en italien, c'est pas la même expression. Vous avez là choisi un exemple typiquement français. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Non, tout à fait, oui. Alors, je ne me rappelle pas quelle était la version italienne, mais à la place des fameuses chaussettes sur lesquelles j'ai fourché, il y avait un autre virlang italien. Oui. Donc ça, je l'ai adapté.
Et ça, c'est des choses que vous rencontrez souvent dans votre travail ?
Oui, ça arrive assez souvent. Alors là, c'est intéressant parce que, en fait, il y a deux adaptations ici. Enfin, il y a plutôt une adaptation et une non-adaptation, puisque j'ai choisi de laisser en italien le nom du plat. Ça n'aurait pas eu de sens de le traduire, puisque c'est un plat typique de Turin. Donc déjà, même en Italie, c'est quand même quelque chose qui est très régional et très précis. Moi, j'ai fait le choix de le traduire au début pour qu'on sache quand même de quoi il s'agit. Ensuite, pour les chaussettes de l'archiduchesse, oui, là, c'est quand même... c'était un repère culturel que le lectorat italien identifie immédiatement. Et là, il fallait... La priorité, c'était que le lectorat français identifie immédiatement aussi la référence.
La position du traducteur, c'est un peu une position d'intermédiaire entre le lecteur et l'auteur. Vous diriez que vous vous sentez plus proche de l'auteur ou du lecteur pendant que vous traduisez ?
Moi, je me sens très lecteur. Je pense que pour moi, le traducteur, c'est vraiment le premier lecteur du texte. La traduction elle-même est une lecture, finalement, où c'est comme si on lisait à voix haute, mais dans une autre langue.
Et donc vous lisez en entier d'abord le livre, histoire de vous imprégner de sa narration, et ensuite vous vous mettez à travailler ?
Ouais, généralement, je fais ça. Pas sur tous les textes forcément, mais en général, je fais ça puisque j'aime bien avoir une vision globale de l'œuvre avant de me lancer dedans.
Et pour avoir un petit ordre d'idée, ce livre Histoire d'un fils qui fait environ 150 pages, un peu plus, combien de temps ça met pour vous ?
Je pense que j'avais mis à peu près 2 mois à le traduire. Ça, c'est pas un livre qui était très long.
Et quelles sont les autres langues alors que vous traduisez ?
Alors moi, je traduis de l'anglais. Ma formation initiale, c'est une formation d'anglais et l'italien. J'y suis venu un petit peu plus tard, mais voilà, c'est vraiment...
Vous orbitez autour de ces deux langues-là.
Oui.
Pendant votre écriture, est-ce que vous entretenez quelconque lien avec l'auteur des livres que vous traduisez ? J'entends bien sûr pas en amont où forcément la relation se fait, mais pendant que vous écrivez, quand des fois s'il y a des doutes qui adviennent, est-ce que vous préférez rester d'abord un peu vous dans votre travail et ensuite à la fin le contacter, ou c'est pendant qu'il y a une espèce de relation, de dialogue qui se noue de manière continue ?
Alors déjà, c'est assez rare d'être en lien avec l'auteur, puisque c'est généralement la maison d'édition qui gère un peu les relations, donc on n'est pas toujours en contact avec les auteurs. Et moi, je préfère quand même mener ma traduction à bout, et ensuite, quand vraiment j'ai des interrogations, échanger avec l'auteur quand c'est possible.
D'accord. Vous allez dire un truc.
Oui, que sur ce livre-là, par contre, j'ai eu un vrai échange avec Fabio Geda et Nayatollah Akbari, qui étaient venus pour présenter le livre lors de sa première sortie il y a 10 ans. Et ça, par contre, ça avait été vraiment, ça avait été vraiment un moment très fort.
C'était une des premières fois que vous rencontriez l'auteur en direct, comme ça ?
Oui, c'était une des premières fois, oui. Et du coup, je les avais accompagnés, j'avais interprété pendant des rencontres en librairie ou à la radio. Et voilà, c'était vraiment chouette de rencontrer, puisque là, en plus, c'était quand même le protagoniste du livre qui était présent. Donc, c'est quelqu'un à qui on s'est identifié, dont on connaît l'histoire. Et le rencontrer en vrai, c'était assez émouvant.
J'imagine. Est-ce qu'il y a une lecture ou une présentation publique prochaine qui est prévue dans nos contrées de cette histoire d'un fils qui sort prochainement, comme on l'a dit, et vous, du fait que vous soyez installé depuis peu sur notre territoire, est-ce que vous projetez de le présenter en public ?
J'aimerais beaucoup que ça puisse se faire, oui. J'espère que ça se fera prochainement à la librairie Sue Gamba d'Adieu Lefi.
On vous le souhaite. Samuel Suez, je vous remercie.
Merci
d'être venu. Vous êtes traducteur et êtes venu nous présenter le livre « Histoire d'un fils » que vous avez traduit de l'italien d'après l'œuvre de Fabio Geda. Le livre paraît très prochainement aux éditions Slatkin et compagnie. Il fait suite à « Dans la mer, il y a des crocodiles » qui vient également d'être réédité par la même maison après une première parution en France en 2011 chez Liana Levy, comme vous l'avez dit. Les deux livres retracent l'histoire vécue des Nayatollah Akbari depuis son départ d'Afghanistan à l'aube des années 2000 jusqu'à son installation en Italie en 2004. Près de 20 ans ont passé, mais son parcours résonne malheureusement toujours avec l'actualité, que ce soit au vu du contexte de l'Afghanistan aujourd'hui et de la récente prise de pouvoir par les talibans, mais aussi de façon plus générale en regard de la situation des réfugiés. L'histoire des Nayatollah est donc là, qui nous rappelle que l'immigration est souvent plus forcée que désirée, mais surtout qu'elle est une question d'humanité avant tout. Merci beaucoup.
Merci.
Radiola.media.